Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h.
L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis.
L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale.
Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66.
Par mail à l'adresse 94degrésalombre@protonmail.com
ou par courrier à l'adresse Canal B 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes.
Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B.
Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre.
A tout de suite!
C'est normal, j'entends. Ah, mais
c'est bon, c'est... les micros sont ouverts. Mais c'était mal. On n'a pas entendu votre bonjour.
Ah, on recommence.
Bonjour!
Bonne année!
Et bonne santé surtout, c'est important.
Bah, bienvenue sur l'émission 94 degrés à l'ombre, du coup l'émission anticarcérale, le gros mot.
Le gros mot, qu'est-ce que ça veut dire anticarcérale?
Ça veut dire qu'on est contre les prisons et contre toutes les formes d'enfermement.
Bon, donc, du coup si vous ne nous connaissez pas, nous on est une radio où on milite du coup contre les prisons et on donne un peu de témoignages, on redonne un peu la parole aux détenus. Du coup, ça fonctionne comment? C'est quoi nos deux parties d'émission?
D'abord, on a une première partie où on va vous faire des dédicaces. Donc des dédicaces de la part de proches pour des détenus ou de détenus pour les proches. Et la deuxième partie, c'est un point info où on va parler de l'actualité, plutôt de manière générale, anticarcérale. Et aujourd'hui, on est pas mal dans l'émission, donc je pense qu'on peut se présenter. Moi déjà, c'est Oscar.
Moi, c'est Camille.
Moi, c'est Orman.
On t'entend pas, Orman, je crois.
On m'entend pas.
C'est bon, redis.
Moi, c'est Orman.
Et moi, c'est Tim.
Et moi, c'est Laura.
Ah, on t'entend pas non plus, je crois.
Moi, c'est Laura.
Moi, Brenda.
Yo, Brenda.
Donc, pour les dédicaces, je vais les dire. La première, c'est une dédicace pour Aurélie de la part de ses parents. On a une dédicace pour Aurélie de la part de Romain, Bernard, et Claudette. Pour Amélie de la part de Gégé. Pour Amélie de la part de Julien. Pour Kaline et Domino de la part de Fred, une dédicace pour Céline de la part de Daphné, une dédicace pour Céline d'une personne anonyme, on a une dédicace de Diane pour Mourad, et on a Kali et Orman aussi qui vont nous faire des dédicaces.
Et aussi, je tiens à préciser que si vous n'avez pas entendu votre nom dans la liste ou qu'on a omis de vous... cité, n'hésitez pas à nous joindre via Messenger ou par ProtonMail. Voilà.
Après, du coup, on va passer dans la seconde partie d'émission où Orman, tu vas nous briefer un peu sur ce que c'est la corruption de fonctionnaires, c'est ça?
Bah, briefer, oui, ce que j'ai pu vivre en détention et puis remettre un peu de réalité en fait dans ce que je peux voir dans la presse quand des surveillants se font attraper la main dans le sac et qui accusent les détenus d'avoir menacé pour faire entrer des objets, alors que la réalité c'est pas ça du tout. La réalité c'est qu'ils sont ils agissent de leur propre chef, c'est eux-mêmes qui décident de faire entrer les objets. Mais c'est très très pratique de dire qu'on a été menacé, c'est un axe de défense en quelque sorte. Mais c'est dégueulasse en fait pour les détenus en fait, parce que voilà, t'es déjà incarcéré et en plus tu viens te faire accuser de menace, alors que pas du tout. Donc voilà, un peu la directive un peu de l'intervention anticorruption qui sera faite au point info.
Super. Bah, moi, du coup, après, je ferai une petite transition où je partagerai une brochure que j'ai trouvée qui parle de la grève des matons. Parce que du coup, on entend souvent cet argument de « Ouais, mais ils ont des mauvaises conditions et le travail, c'est compliqué. Oh. » Du coup, ça pousse à la corruption.
Oh.
Les petits coup, bébous.
Oh, c'est malheureux.
Tous les Notog Cops qui disent « Oui, mais il y a des flics qui sont mieux que d'autres et tout. » Bah, du coup, cette brochure elle parle un peu de pourquoi c'est tous des pourris et les meilleurs keufs, c'est ceux qui démissionnent. Ensuite, je parlerai du Triangle. C'est une maison de quartier à Rennes qui s'est fait réquisitionner hier soir, je crois, par des exilés, des familles d'exilés, parce que la mairie de Rennes refuse de leur donner un logement décent. Voilà, du coup, on fera un petit point là-dessus, on écoutera un communiqué. Ensuite, je vous partagerai une brochure que j'ai trouvée sur l'antipsychiatrie. L'antipsychiatrie, c'est un courant de pensée, un courant politique qui se place contre toute forme de psychiatrie. Bon, bref, on découvrira tout ça, mais moi, ça m'intéresse de faire un pont entre l'abolition de la prison et l'abolition de la psychiatrie et de toute forme de contrôle et d'enfermement. Et ensuite, on fera une petite pub pour nos prochaines émissions à venir, mais ça, on vous en parlera mieux. Mais spoiler, ça parle de Palestine. Voilà.
Trop bien, merci beaucoup. On se met une musique d'introduction là pour s'ambiancer.
Allez, pou pou pou.
Meryl, c'est parti.
Allez.
On aime Meryl à 94 degrés à l'ombre.
Vive le chata.
Sa kwa tout moun nan ka rekolte sa yo si men Kouyon yo te ka si men nou ka travay tout la si men
Patat maman Tombe en jane mwen depi sa nou ka pon de bel pi Fouye depi se patat maman I sa pou pa sa fey, I sa pon pa ni fay Fouye, plante, rekolte Biche, tweet li Mwen lè mwen fouye mwen piche ou pa Je fè sa kon wa Mwen lè mwen travay ou pa, je fè a kon wa Mwen nan ou lè do li galde mwen 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 E si anjou yo vole tout lor a ki an lè mwen Se ri achete, minimum 2, minimum 3 Ou minimum Fais mon missus et enlève la plata. Fais 4 la palais, faut c'est pas toi. Patate maman. Tombé en jeune et moi depuis ça, nous prenons des belles pieds. Fouillé depuis c'est patate maman. Ils savent pas sa feuille, ils savent mon panifaille. Fouillé, planté, récolté, pliché. Tweet li.
Jeune femme, c'est vive à la mine pour fouiller patate là. Tu aimes ça, well, jump à l'essa. Ou ça, right, ça, et ben, right, chouval là. Jeune femme, coûte ça, nadoula. Tiki tiki tac tac, t'es beau, panat nat. Ouvle tout, ou pas, v'le dit tac tac. Ben yon back back, let me see that. Aïe, faut aïe, soit fat pour si kat.
Patate maman. Tombé en jeune et moi, depuis ça, nous prenons des belles pieds. Fouillé depuis c'est patate maman. Ils savent ou pas sa feuille, ils savent mon panifaï. Fouillé, planté, récolté, piché. Tweet li. Mi c'est fouillé, planté, récolté, piché. Tweet li. Ou pas, j'ai fait ça con ça.
Baby, palé en backseat moto. Il est en big loto. Ils savent pas qu'à faire zéro. Zéro, compte tête toto. Donc nous en tchèque coco. Baby, palé en backseat moto. Il est en big loto. Ils savent pas qu'à faire zéro. Zéro, compte tête toto. Donc nous en tchèque coco.
Patate maman. Tombé en jeune et moins depuis ça, nous prenons des belles pieds. Fouillé depuis ces patates maman. Ils savent pas sa feuille. Ils savent mon panifaï. Fouillé, planté, récolté, pliché. Tweet li, mi c'est fouillé, planté, récolté, cliché. Tweet li, ou pas j'ai fait ça con ça.
J'espère que vous avez bien kiffé la musique de Meryl. Donc on va passer à la première dédicace, c'est une dédicace pour Aurélie de la part de ses parents. D'abord on va avoir un message vocal, puis la musique ce sera Beau de Julien Doré et Joseph Kamel. Bonne écoute.
Pour Aurélie Arène, bonjour Aurélie de la part de papa et maman, bon courage pour le travail et puis soigne bien ton rhume. Fais attention à toi et puis on t'embrasse très très fort, très gros bisous.
Bonjour Aurélie, c'est maman. Bon, j'espère que ça va. Hein. Essaye d'aller mieux puis de te faire soigner, chérie. Hein. Puis couvre-toi bien. Fais attention à toi, prends soin de toi. Allez, on t'embrasse très très fort. Puis on te fait plein de gros bisous. Gros bisous.
Bonjour, c'est Romain, c'est pour Aurélie. Je te fais un message pour avoir des nouvelles.
Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si
tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est faux. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
On vient d'écouter du coup le message des parents d'Aurélie pour Aurélie. On espère que tu as pu le recevoir, l'écouter Aurélie, et on te passe des saluts et plein de force. Et on va écouter du coup un deuxième message pour toi Aurélie, qui est de la part de Bernard, Romain et Claudette, et qui sera suivi du morceau « Quelque part » de Sheriff Aluna. Bonne écoute.
Pour Aurélie, Arène. Bonjour Aurélie, de la part de papa et maman.
Bonjour, c'est Romain, c'est pour Aurélie. Je te fais de gros bisous, de bon salin et merci pour la carte.
Bonjour, c'est Claudette, je te passe Bernard.
Coucou Aurélie, c'est Bernard, tu fais encore un jour, gros bisous, merci pour la carte.
Voilà, c'est Claudette, bon, mais merci pour ta petite carte Aurélie, hein. Ça nous a fait plaisir, hein. On pense à toi très très fort et puis on t'aime. Bon, ben Romain, il a eu 2 jours de vacances supplémentaires avec la neige, hein. D'accord, bon, on pense à toi très très fort. Or, on t'aime et on t'embrasse Aurélie, bisous. Romain, il veut te dire un petit mot.
Je t'embrasse et je te fais de coquelles, hein, Aurélie.
Voilà Aurélie, allez, au revoir Aurélie, bisous, on t'aime.
Tous les mots ne suffisent pas pour te dire combien je t'aime.
Respire mieux qu'avant. Hey, hey, tu peux risquer, mais emmène-moi.
Merde, attends, j'ai pas mis mon casque, j'arrive. Ok. Vous êtes toujours à l'écoute de Canal B et de 94 degrés à Lombes, pardon. L'émission anticarcérale, il est midi 19. On vient de s'écouter quelque part de Sherifa, c'est ça ?
Sherifa Luna. Luna, ouais.
Ok, très bien. Et tout de suite, on va s'écouter un son pour Amélie de la part de GG. On a reçu une dédicace musicale du coup de GG qui dit « Je pense bien fort à toi, contente qu'on ait pu discuter jeudi quand tu m'as appelé de la cabine. Sinon, j'espère que ta semaine va bien se passer quand même. Je te laisserai un message sur la cabine après ta semaine de retraite spirituelle. Bisous, GG. » Et du coup, on va s'écouter « Game Over » de Vita et Maître Gims. Bisous.
Très souvent ça disparaît, ça fait de sales histoires. Je te mentirais des fois pour rentrer tard le soir. Faut que tu saches, ma grande, je ne suis pas un mec pour toi. Je vais finir par me sauver, sauver, sauver. Je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc je vais finir par me sauver, sauver, sauver.
Tu penses me tenir, c'est parfait. Je te laisse croire que je suis naïf. T'as l'espoir que je t'obéisse. Tu finiras par attendre et ça appelle. Tu crois qu'une fille comme moi en est à son coude. Et c'est moi, j'infiltrerai ton phone tel 4 ans en arrière. Il est encore temps pour toi d'émettre des regrets. On touchera pas ta caisse si tu me rends mes affaires. Tu finiras par tomber.
Habits, j'ai un problème comme Nicky, j't'ai changé. C'est bien plus qu'un petit coup de pouce. Cendrillon, bibidi, bobidi, bou. T'es foutu si j'te laisse dans cette situation. Ah, un, plus de cadeaux. T'es l'ombre de mon ombre, error. Pussy cadeaux. Cindy, sois pas fâché pour t'oublier. J'ai dû t'imaginer en train de chier. Regarde-toi dans la glace, j'étais peut-être le seul type qui n'avait jamais vu le Pink Paradise. Oh shit. Bye, t'es plus de la mif. On va te négliger comme l'ami d'un ami. J'devais te présenter à Karl Lagerfeld. Oh. Vas-y, file.
Tu penses à qui quand je rentre sur le beat? À toi qui disais Vita Games sur un feat, mais c'est quel titre? Maintenant dis-moi qui te met la pression sur le beat. Et si tu danses, c'est que Vita Games sans crède, on fait un hit.
Tu vas regretter tous ces moments à t'accrocher comme ça.
On. Comment regretter quand c'est moi qui décide que tout s'arrête là?
On. Tu reverras plus de mecs comme moi.
Toi, tu m'as prise pour une copie du roi.
Je t'avais prévenu, je ne reste pas.
Je t'en prie, je ne te retiens pas.
Je vais finir par me sauver, sauver, sauver.
Les gars comme
je ne suis pas un lover, lover, lover. Je me comporte comme un loser, loser, loser. Donc je vais finir par me sauver, sauver, sauver.
Nous allons passer à la suite des dédicaces, avec une dédicace pour Amélie de la part de Julien, qui souhaite lui partager le message suivant. Plein de gros bisous à toi, passe une belle journée, avec la dédicace associée à ce petit message, Bouge de là, de MC Solar. Bonne écoute.
Bouge de là.
C'est là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit
MC Solar, viens là que je te donne du réconfort.
J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là.
Bouge de là.
j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se boxe? Ses hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là.
Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là.
Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit
Claude MC, est-ce que tu peux descendre?
J'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là.
Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là.
Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit
t'aimes les animaux, toi mon super.
J'ai dit oui, j'adore, avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là.
Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là.
Plus tard, dans le métro, y'a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis jette-toi dans les coups, t'arrives direct dans la scène. Il m'a fait bouge de là.
Bouge de là.
J'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinar. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là.
Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là.
Alors j'ai bougé. J'ai dû m'en aller. Partir bifurqué. J'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là, bouge de là.
Et du coup, on vient d'écouter le message et la dédicace de Julien pour Amélie de Rennes. Et on va poursuivre l'émission avec un mot qu'on a reçu pour Kaline et Domino de la part de Fred. Du coup, Fred qui dit « Joyeux anniversaire à Kaline et Domino ». Et elle accompagne son message du morceau de Pink « Hopelessly Devoted to You » que je lance tout de suite. Bonne écoute.
Guess mine's not the first heartbroken. My eyes not the first to cry. Not the first to know there's just no getting over you. You know I'm just a fool. Sit around and wait for you. But Ray, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. Till the end.
coup, on vient d'écouter un morceau de Pink proposé par Fred. Et on va poursuivre avec un deuxième morceau de la part de Fred pour Domino, qui est le morceau Song 2 de Blur.
Nous allons passer à la suite de l'instant dédicace avec une dédicace pour Céline. De la part de Daphné avec le message « Très belle année à toi, maman ». Plein de force, je t'embrasse. Excuse-moi pour la lecture, je me suis un peu embrouillé. En tout cas, bonne écoute avec le son qui était associé. La mauvaise réputation de Brassens. Bonne écoute.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Et c'est un morceau de Brassens qu'on vient d'écouter. Et on va maintenant vous partager une dédicace pour Céline de la part d'un anonyme avec le message « Pas de commentaire, tu sais déjà tout ». Et le morceau qui est accompagné, c'est « Ne me quitte pas » de Jacques Brel.
Mystérieux, mystérieux.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire et t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
C'était une dédicace de Céline, pour Céline pardon, de la part d'Anonyme. Je ne sais pas si Céline aura reconnu la dédicace. Il est 12h39, on va passer à la dédicace pour Mourad, de la part de Diane, je bégaye. Donc on a d'abord un message vocal, puis la dédicace ce sera Vanessa Paradis, Mia Mort. Mourad, j'espère que tu vas bien recevoir le message vocal et des bisous pour Diane.
Tous les mots ne suffisent pas pour te dire combien je t'aime. Pour toi, tous ces kilomètres, j'ai pu parcourir à te chercher avec Walou. Même sous une averse glaciale, je t'attends encore les yeux, les mains rougies encore aujourd'hui. À la question du 23 mai 2014, rue du Petit Thouars, vous l'aimez? Oui. Sinon, pourquoi j'aurais remé ciel et terre? Malgré le blabla des langues de vipère, faut la mettre au courant. Elle a qu'à l'attendre. Avril 2016. Je m'en fous. La méchanceté lâche et facile. J'aurais pu partir, mais je suis restée pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Laisse jaser, écoute ton cœur. Je te parle à cœur ouvert. Allez, courage, je t'aime.
Dis-moi que tu m'aimes, que la vie est belle, que ce monde est fou. Et quoi qu'il advienne, je resterai tienne à toi jusqu'au bout.
Voilà, et nous allons passer à la prochaine dédicace qui n'est autre qu'une dédicace de moi-même pour toi, mon amour. Voilà, j'espère que tu es derrière ta radio, j'espère que tu t'es bien réveillé ce matin. Et voilà, en attendant, je te partage le son que j'avais écrit, les paroles, et que grâce à l'IA et voilà, les moyens technologiques qu'on a, parce que moi, l'interprétation, c'est vraiment pas mon délire. Mais en tout cas, il y a des petites applis assez sympas qui font ça. Donc voilà, bonne écoute à toi, gros bisous, je t'aime et à tout à l'heure.
Oh. 8 ans, c'est pas rien, mon amour, depuis ce jour. Une erreur du destin, un drôle de détour. Qui a lié nos âmes, nos cœurs brisés en deux. Oh, main et calée, un amour audacieux. Je sais que tes enfants te manquent, la peine est là. Mais regarde-moi, mon bébé, je suis toujours là. Malgré mes défauts, ma loyauté sans fin. Chaque instant avec toi, c'est mon plus beau chemin. Si tu t'en
souviens des nuits quand tout semblait perdu. Tes larmes silencieuses, des batailles sans vertu. Mais ensemble on est fort, on affronte les ombres. Nos promesses gravées, loin des doutes et des encombres. Une rencontre avec ton père, je m'en occupe, sois sereine. Tout est organisé pour apaiser ta peine. Si tu tombes, je tombe. Ciel irréel. Sans toi c'était le vide. La récidive à l'œil. Mais ton amour m'a sauvé. C'est mon plus beau recueil. Notre mariage approche, un futur qu'on construit. Laisse-moi tout gérer, mon amour sans bruit. Pour toi je soulèverai des montagnes. Crois-moi, ma petite gâchette est là, toujours près de toi. Hormone et Calais, pour l'éternité mon bébé. Ton homme t'attend à jamais et c'est scellé.
Les institutions publiques.
Donc c'était la dernière dédicace, une dédicace pour Calais de la part de Hormone. Et on va bientôt pouvoir passer au point info. Mais avant ça, on va vous mettre une petite musique d'introduction. Donc, c'est le générique de L'Envolée, vous allez peut-être le reconnaître. Et c'est Il y a du baston dans la tôle, il me semble, de Gomard.
Et on lance ça tout de suite, si la souris veut bien réagir. Du coup, Il y a du baston de Gomard et on se retrouve juste après. Bonne écoute.
À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café des mecs, ça va saigner. Le morceau commençait à l'aile gauche de la tôle. Tous les mecs, ce mec a saccagé les pioles. J'ai dit allez les potes, on se paye une petite fête. La carrive est l'ardue avec des mitraillettes. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va s'élever. Thank you.
radiateur sous les gaz suffocants. On a tous verrouillé, mais de temps en temps, y'a des vagues dans le flot. Et les meufs, ça va, c'est... Merci, bonsoir, c'était
Flash Info, Nicolas Sarkozy vient d'être libéré aujourd'hui lundi 10 à 14h. Et là, on le voit sortir de la prison de la santé. Bref, 3 semaines, est-ce que vous trouvez que c'était normal?
Après 4 jours de procès, il retourne en prison. Julien P est un ancien policier de la brigade des mineurs de Marseille.
Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Il est sollicité par une habitante qui souhaite être relogée. Il lui aurait alors répondu par des avances à caractère sexuel. À caractère sexuel.
Ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens ignorent la réalité de ce qui se passe à l'intérieur d'une prison. Un client qui a eu la chance effectivement d'être remis en liberté est venu m'expliquer un certain nombre de choses, et notamment la violence qui pullule au sein d'un établissement pénitentiaire.
T'es propriétaire et c'est fonctionnaire, alors ta gueule!
Bienvenue dans le Point Info de 94 degrés à l'ombre, l'émission diffusée chaque dimanche sur les ondes rennaises dans le but de lutter contre toutes les formes d'enfermement. Actualité carcérale, textes, témoignages, discussions politiques. Cette seconde partie met en lumière les violences de la privation de liberté.
Participe toi aussi à l'émission en nous contactant par mail au 94degrésalombre@protonmail.com, par téléphone au 02 99 52 77 66 ou sur la page Facebook de l'émission 94 degrés à l'ombre. Si tu veux te joindre aux luttes anticarcérales, tu es le bienvenu dans les studios de Canal B, tous les dimanches de midi à 14h.
Retrouve ce Point Info sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Deezer et bien plus encore. Et écoute l'intégralité de notre émission sur canalb.fr, dans laquelle nous diffusons des dédicaces entre des personnes détenues et leurs proches.
Bonne écoute à toutes et à tous.
Salut, salut. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour ce point info. On espère que vous allez bien et que vous avez bien aimé la première partie de l'émission si vous l'avez écoutée. On peut se représenter. Donc moi c'est Oscar.
Moi c'est Tim.
Moi c'est Orman.
Moi c'est Camille.
Moi c'est Laura.
Et moi Brenda.
On peut peut-être commencer par expliquer, faire un petit sommaire. Je sais pas si quelqu'un veut le faire de, le, du point info.
Oui, pardon, j'étais pas prête. On va tout d'abord se lire un petit texte qu'on a reçu, c'est bien ça?
Ouais, deux textes de Aurélie.
Aurélie, si tu nous écoutes, branche bien ton, tes oreilles. Ensuite, on va se refaire un petit point sur, même un gros point, je pense. Norman, tu vas nous faire un point sur la, la corruption des fonctionnaires. On va parler un peu de tout ça et de voir... pourquoi ça a toujours été, et les médias, ce qu'ils disent en ce moment, c'est que c'est en nette croissance et tout, mais
oui.
Voir un peu que les statistiques, c'est pas neutre, et bah, que
c'est
ça
comme, c'est comme l'idée de dire que la délinquance et la criminalité augmentent, en fait, pas du tout, c'est juste que c'est plus visible ou plus démontré, en fait, par les médias et les choses, mais c'est pas en augmentation du tout.
De ouf. Et puis moi, je ferai une petite, un petit lien avec la grève des matons, qui avait eu lieu il y a un an, je crois. Et donc, j'avais trouvé une brochure sur infokiosque.net. Donc, c'est un site de fanzine qui parle un peu de ça, de pourquoi on est contre la grève des matons. Ensuite, je vous ferai aussi un point sur la réquisition du Triangle, qui est une maison de quartier à Rennes, par des personnes qui ont été refoulées de partout et qui n'ont pas de logement, par rapport à leur situation administrative. Et ensuite, on parlera de, d'antipsychiatrie et de notre vision de la psychiatrie, de pourquoi on pense que c'est, ça a toujours été un, une institution qui est faite pour enfermer les fous, les femmes et les queers. Voilà. Est-ce que ça vous va?
Carrément, trop bien, merci beaucoup.
On se bon commence, programme en tout cas.
Par des petits
oui,
poèmes.
Oui, gros programme. Allez, petit poème. Est-ce que tu veux nous mettre une musique en fond, Tim?
C'est parti.
Rendre ça romantique.
Tout autour de l'horloge, elle tourne les aiguilles. Tout autour du soleil, elle tourne la terre. Tout autour de la vie, le temps passe. Chaque jour qui passe, tourne, tourne la page.
La la la, moi aussi je veux écrire une chanson d'amour, la la la. Moi aussi je veux construire une histoire d'amour. La la la, toi aussi tu veux écrire une chanson d'amour. La la la, toi aussi tu veux construire une histoire d'amour. Nous aussi on veut écrire une chanson d'amour. La la la, nous aussi on veut construire une histoire d'amour. La la la.
Merci pour la lecture des poèmes. Merci Aurélie pour tes textes et on va continuer de les lire. C'est très beau d'ailleurs.
Waouh, quelle ambiance vous avez mis. Ok, et bah les personnes que vous venez d'entendre, c'est deux personnes qui viennent d'arriver à la radio. J'ai oublié vos prénoms, pardon.
Laura et Brenda.
Laura et Brenda, bah bienvenue. Et du coup, si ces personnes sont arrivées, c'est parce qu'on a publié un texte sur internet, une espèce de charte ou une politique, je sais pas trop, mais en gros un texte qui explique ce qu'on fait. Du coup, n'hésitez pas à aller retrouver ça sur expansif.info. C'est un média bon, qui est en pause en ce moment parce que je crois que les gens n'avaient plus l'énergie de faire le truc, mais ça fait au moins 10 ans que ça existe. Et c'est un média militant qui permet à chacun, à chacune de pouvoir publier des textes dessus. Et du coup, ça s'appelle Rejoignez 94 degrés à l'ombre, je crois. Ta radio anticarcérale. Et du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire ce texte.
D'ailleurs, merci pour la déterre, Camille. Parce que c'était ouais, un peu qui avait rédigé ce texte.
On avait un peu tous rédigé
ouais,
le truc.
Ouais, mais moi je t'ai vu bien bosser dessus en tout cas.
C'est vrai que j'avais fait un peu une obsession, j'étais resté genre au moins 7 heures d'affilée dans les studios pour, réorganiser le truc et tout pour que ce soit clair.
C'était bien cool en tout cas.
Nickel. Du coup, voilà. Et ouais, aussi, je voulais vous tenir aux news. Je sais pas si toute l'équipe est au courant. Mais encore sur une déterre, je me suis tapé à 3h du mat, j'ai envoyé un message à Fred de Skyrock parce qu'en gros on a appris il y a pas longtemps qu'il faisait des animations en prison sur Paris. C'est-à-dire qu'il va voir les personnes détenues et je sais pas trop ce qu'il fait avec. Faudrait lui demander justement. Mais il est chaud de participer à une de nos émissions par téléphone pour nous raconter un peu son taf et de pourquoi il y a pas longtemps il y a Darmanin qui lui a interdit de retourner en prison. Du coup, il avait l'air plutôt révolté. J'avais vu ça. Il avait posté sur Twitter, je crois, sur X. Et du coup, branchez bien vos radios. Sans doute que dans les prochaines semaines, vous allez entendre Fred sur Rennes. Donc, incroyable.
C'est ouf, ça. Darmanin qui met un stop à une entrée en prison, quoi. Mais
une darmadinguerie, comme on dit.
Ouais, darmadinguerie. En tout cas, ce serait cool, ouais, si on peut avoir Fred de Sky.
Bah ouais, c'est l'ancien. On connaît tous, je pense.
Et ouais.
Il a traversé les générations.
En tout cas, à suivre.
Affaire à suivre, voir si Canal B va devenir célèbre. Voilà. Moi, je proposais que, parce que tu voulais nous faire un point sur la corruption de fonctionnaires, Norman.
Ouais.
Je proposais qu'on s'écoute un petit extrait de France Info et puis qu'on réagisse par rapport à ça en mode un peu introduction. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Canal B, il est 13h02 et vous écoutez 94 degrés à l'ombre dans le point info de cette émission. Nous, on est une émission à visée anticarcérale et on parle un peu de notre vision de la prison. Du coup, c'est parti, si tu veux nous diffuser ça, Tim.
Il est même 13h12 moins 10 minutes.
13h12 moins 10 minutes.
Et on vous partage l'enregistrement du coup de France Info.
Yeah.
En force, les unités d'élite investissent les cellules de la prison de Fleury-Mérogis.
De quoi ? Cherchez quoi ?
Ils cherchent tout objet interdit en détention. Ils fouillent les paquets de nourriture. Dévissent même ce robinet pour trouver du cannabis et des téléphones portables. 29 au total avaient réussi à franchir les murs de la prison.
Il y a plusieurs voies d'accès. Hein. On a un problème avec les drones, on a un problème avec les interventions qui peuvent liées aussi être liées à des phénomènes entre guillemets corruptifs.
Le phénomène corruptif, comprendre des surveillants pénitentiaires qui aident les détenus à se procurer des stupéfiants, des téléphones ou même de la nourriture, visible ici sur ces images filmées par un détenu. Un trafic aisé, en croire cet autre détenu qui se filme depuis la prison avec son téléphone, obtenu, dit-il, en soudoyant un surveillant.
Donc on peut tout faire passer, tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'un kéké, il accepte quelque chose qu'une fois, il accepte 10 fois. La corruption, elle est partout.
Un phénomène marginal, mais en augmentation. En 2023, 25 agents ont été condamnés pour ces faits. C'est 13% de plus qu'en 2021. Dans les prisons de Réau et d'Ogny, en région parisienne, des surveillants sont mis en examen pour avoir livré des colis aux détenus, en échange d'argent. Une corruption qui peut s'installer pas à pas dans les prisons où les surveillants sont parfois seuls face aux détenus.
Ça va commencer par, bah tiens, est-ce que je pourrais faire sortir un courrier? Est-ce que je pourrais ramener un paquet de tabac? Est-ce que je pourrais ramener autre chose? Puis une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, bah on s'aperçoit qu'il est trop tard. Et puis finalement, bah ça se termine par, je demande pour faire rentrer des téléphones, des produits stupéfiants, etc., etc.
Tous les agents reçoivent pourtant une formation anti-corruption, mais les narcotrafiquants ont de plus en plus de moyens de pression.
Vous avez face à ces agents pénitentiaires des gens qui ont une assise financière quasi sans limite, ou en tout cas une assise financière qui leur permet soit de corrompre directement les agents, soit éventuellement de commanditer effectivement des menaces, voire des violences même contre ces agents.
Pour renforcer les contrôles, une inspection générale des agents pénitentiaires sera créée l'année prochaine.
Ok.
Donc ouais, voilà, on vous a partagé en fait un petit short qu'on a trouvé sur France Info et voilà qui traite un peu de la corruption des surveillants pénitentiaires. Alors qu'est-ce que c'est que la corruption ? En fait, la corruption c'est voilà des petits services qui sont offerts aux détenus par des surveillants peu scrupuleux et voilà qui sont grassement rémunérés pour ces services. Et voilà, d'entendre ce court en fait, métrage, là, ce court documentaire, bon, je sais pas ce que c'est, c'est du n'importe quoi. Moi, ça m'a fait réagir aussi tout de suite quand je l'ai vu. Je suis tombé sur ce petit short hier que j'ai repartagé sur Facebook tellement c'est une dinguerie. Comme BFM, comme tous ces médias en fait, qui parlent de la tôle comme si c'était la corruption était un truc nouveau. Moi, ça fait 20 ans que voilà, je connais le système carcéral, ça fait 20 ans que la corruption a toujours existé, ça fait 20 ans qu'elle a toujours fait partie des murs. Alors voilà, ces agents pénitentiaires qui se disent menacés par des détenus, MDR, en fait, non. Ils sont pas menacés, hein. Clairement, quand ils prennent leurs billets et que ils peuvent s'acheter un peu tout ce qu'ils veulent avec l'argent sale qu'ils accumulent au fil de l'année. Et puis, c'est très très pratique pour un surveillant pris la main dans le sac, les brebis galeuses, comme on les appelle, de l'administration pénitentiaire, de se défendre comme elles peuvent, hein, de dire que elles ont subi des menaces. Bah oui, elles vont pas dire bah oui, en fait moi j'étais très très d'accord, je voulais faire des petits billets. Non. Pour arrêter les conneries 5 minutes, les détenus, c'est pas dans leur intérêt de menacer les agents pénitentiaires. Il y a aussi le fait que quand un agent pénitentiaire vous amène un téléphone en cellule, qu'il est payé pour ça. Et en fait, c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Quand vous tombez un peu dans ce piège, savamment orchestré par l'administration, par certains fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, quand l'agent pénitentiaire sait que tu as un téléphone en cellule, pour la bonne raison que c'est lui qui te l'a apporté. C'est une très très bonne solution pour un agent pénitentiaire d'obtenir ce... quand un agent pénitentiaire te dit à un moment donné fais pas le mariole parce que je sais que t'as un iPhone dans ta cellule, si tu veux pas que je t'éclate ta cellule demain, et puis il y a des agents pénitentiaires qui exécutent les menaces, qui pètent les cellules, qui arrachent les téléphones, tout ça, parce que peut-être aussi qu'ils espèrent peut-être qu'on lui en ramène un autre. Donc de se permissionner pour ramener un autre téléphone, c'est-à-dire d'autres recettes issues du trafic de ces brebis galeuses. Et quand l'agent pénitentiaire se permet de faire casquer un détenu pour ramener un téléphone qui pète sa cellule, il ne peut pas venir s'étonner que ça agace le détenu et qu'il se prenne quelques menaces. Parce que quand tu te fais accuser de menaces alors que tu n'as strictement rien fait, je peux comprendre qu'il y ait des surveillants et des détenus qui pètent les plombs et qui en viennent aux menaces, parce que l'administration pénitentiaire ne réagit qu'à ça. C'est triste à dire, mais quand vous êtes détenu, même pour sans parler de trafic, hein, quand vous êtes tout gentil, que vous êtes tout calme et que vous pouvez pas remarquer, les menaces, souvent, ça sert à faire réagir. Alors ils n'aiment pas ça, clairement, hein. Ils aiment pas ça parce que en fait c'est un peu, ils se sentent un peu forcés de faire les choses. c'est juste un délire. Les surveillants aussi qui sont pas contents, on va en parler après aussi, qui veulent faire des grèves et tout. Encore le syndicat en arrière-plan. Syndicat, on en parlera tout à l'heure avec toi Camille sur le sujet. Faites la corruption. Et ne tombez pas dans le piège de ces agents en fait qui vous proposent de ramener, parce que moi à l'époque j'ai connu ça, c'était une trousse, où tu pouvais mettre un peu ce que tu veux. Et moi, c'est pas moi qui les ai menacés, hein. Moi je suis loin des menaces, c'est carrément les agents qui m'ont proposé de me ramener une trousse. Voyez un peu le délire. Donc moi j'ai toujours refusé déjà j'avais pas de thunes, alors ça arrangeait bien les choses, mais je serais jamais tombé dans ce piège parce que moi je connais un peu les ficelles. Lié à cette corruption, mais c'est surtout la corruption, elle a toujours existé. C'est juste que avec l'augmentation de la population pénale, toujours plus d'incarcération et tout, donc il y a plus de détenus, il y a plus de trucs, donc il y a plus de bizarreries, il y a plus de surveillants qui se remplissent les poches. Oui, Camille, tu voulais intervenir ?
Je me demandais, tu parlais de trousse qu'on t'a proposée. C'est quoi cette trousse ? J'ai pas exactement bien compris. Et aussi, pour toi, ça aurait été quoi les conséquences si t'avais accepté cette espèce de corruption avec les matons ?
C'est une petite trousse que l'agent te vend. Il s'en fout de ce qu'il met à l'intérieur. Il faut que ça rentre dans la trousse et c'est tarifé en fait. Et il te ramène ça en cellule. Et après, c'est ça. Et puis les conséquences, c'est que si tu t'énerves. Parce qu'un surveillant ne veut pas te ramener ton sac avec des affaires, ça peut être au parloir, ça peut être... Parce que tout était sujet à énervement en détention, on te bousille ton courrier, ta famille qui se fait lâchement jeter à la porte pour une minute de retard, il y a plein de trucs qui agacent, et puis quand tu te permets de t'agacer sur un autre sujet, le surveillant dit hey, tu vas te calmer 5 minutes parce que moi je sais ce que tu as dans ta cellule, si tu veux pas que je t'éclate ta cellule demain, fais attention à ce que tu fais.
Ouais. Voilà. C'est un cercle vicieux en fait. Si tu acceptes une fois, après ils.
MDR et Maton qui disent ouais, moi j'ai été menacé. Non, t'as pas été menacé du tout. Tu sais très bien ce que tu fais. Alors ils savent très bien se protéger hein, quand ils prennent des coups, quand ils prennent des insultes et quand ils font des dingueries même au quartier disciplinaire, parce qu'il y a des choses qui se passent au quartier disciplinaire, notamment à Vézin, voilà, où il y a pas mal d'enquêtes qui sont réalisées. Alors je ne sais pas si ça ira au bout, mais il y a pas mal de choses voilà, qui tournent pas rond au quartier disciplinaire. Et voilà, en gros, donc voilà, c'est juste MDR quoi.
Et moi, il y a un outil que je trouve assez intéressant quand on est face à, je sais pas, par exemple, que de la violence entre deux personnes, c'est de questionner les rapports de pouvoir. Genre, par exemple, dans ce cas-là, un maton qui se plaint qu'un détenu fait des menaces ou est violent avec lui, et un détenu qui va se plaindre de la violence d'un maton, pour moi, ça n'a pas du tout le même poids. D'un côté, il y en a un qui est armé, qui a de la thune, qui est protégé par l'administration, et qui a choisi d'être là, qui a choisi son métier. Et de l'autre côté, t'as un détenu qui a pas choisi sa situation, qui a peut-être commis un crime ou un délit, mais bah on peut voir dans les statistiques, c'est très rarement les riches ou les blancs qui sont emprisonnés, c'est souvent les noirs et les arabes, ou alors les pauvres, ou bref, toutes les catégories marginalisées de la société. Du coup, pour moi, si on me raconte l'une ou l'autre version, bah, y en a une qui va avoir plus de poids que l'autre, c'est-à-dire... un maton qui va avoir du pouvoir sur un détenu.
Bah oui, non, mais c'est ça. Et puis, quand vous dites quelque chose, quand vous faites remonter en fait, le mauvais comportement d'un agent pénitentiaire, et quand l'agent pénitentiaire se défend en face avec une autre version qui n'est pas la vôtre, ça sera toujours le surveillant qui aura gain de cause, parce que c'est lui qui est assermenté. Vous n'êtes pas assermenté, vous êtes juste détenu pour vous. Donc, même si vous dites la vérité, vous avez tort. Donc c'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer, même si t'as raison, t'as tort. Voilà, donc c'est un peu ça le truc, et c'est ça qui est sujet à énervement et à agacement de la part des détenus, parce que même quand tu prends des violences et que tu prends des baffes dans ta gueule et que tu vas dire la vérité et que personne te croit parce que l'agent pénitentiaire lui est assermenté, s'il dit qu'il a rien fait, bah c'est lui qui dit qu'il a rien fait, donc c'est ça la vérité. Donc voilà, c'est, il y a plein de choses comme ça.
Et tu parlais de brebis galeuses tout à l'heure, et je trouve que c'est important, enfin peut-être tu voulais en parler après, mais de voir aussi que c'est pas genre 2-3 agentes qui font des trucs de merde, et que c'est juste l'ensemble des agents qui protègent leurs collègues. On avait reçu il y a quelque temps Falco qui avait parlé de violences qu'il avait subies en prison. Et il expliquait très bien comment, dès qu'il y a des choses qui se passent, il y a l'ensemble des matons qui viennent cacher les caméras, etc. Et qu'en fait, il n'y en a pas un qui va dire « il s'est passé ça tel jour ». Et du coup, on peut considérer que tous et toutes sont dans le même sac, quoi.
Oui, parce qu'ils ne sont pas fous. Hein. C'est leur lieu de travail. Donc ils connaissent en fait la couverture, ben, le champ de couverture des caméras. Donc ils ne vont pas... faire les fous et aller faire des dingueries devant les caméras. Ils vont toujours choisir un endroit où qui n'est pas couvert par la caméra, et puis après ça se passe ce qu'ils veulent, et puis vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, c'est vous qui aurez tort. Et c'est fou quand même ce pouvoir défensif qu'ils ont, notamment avec leur syndicat. Quand un surveillant souhaite coûte que coûte être défendu souvent par ses collègues, voilà, c'est quand même bizarre qu'il y a une grosse défense qui s'organise quand un surveillant prend une baffe dans sa gueule, puis voilà, qui va même menacer la direction de l'administration pénitentiaire pour qu'il prenne plein pot à la commission de discipline. Sinon, c'est des menaces de blocage, des menaces de tract. On en revient toujours au syndicat, voilà, qui n'est pas un outil de défense du métier de surveillant pénitentiaire, mais plutôt un outil de menace et d'intimidation. Donc voilà ce qu'il faut en dire. Et voilà, c'est quand même... assez rigolo de voir qu'ils sont incapables de se défendre face à un détenu qui les menace, mais par contre sur tout le reste il n'y a pas de problème, hein. C'est toujours les détenus qui payent les pots cassés.
Et justement par rapport à ce que tu disais, Tim, du fait que c'est pas juste 3 matons dans la prison qui sont corrompus, peut-être on peut s'écouter l'enregistrement. Moi ça m'avait un peu parlé de, je crois que c'est une greffière qui s'est fait choper, du coup une meuf bien haut placée dans la société quand même, qui s'est fait choper pour de la corruption. Bon bref, on s'écoute ça et on réagit.
J'ai un deal pour toi. Ça te dirait de sortir une personne détenue contre rémunération ?
Cela ne m'intéresse pas. Mais quelques mois plus tard, elle dit avoir reçu des appels insistants. Selon elle, c'est le chef du réseau, une figure du narcotrafic, qui l'appelle directement depuis sa cellule.
Combien tu veux ? 20 000 ? 30 000 ? 40 000 ?
La greffière finit par accepter et franchit la ligne rouge.
Un de mes collègues, qui avait préparé tous les formulaires et les avait classés dans un casier par étage et bâtiment, s'est absenté. J'en ai profité pour retirer le formulaire d'appel.
Le formulaire qu'elle fait disparaître est une demande en appel de mise en liberté. Ce document, daté de mi-mars 2023, aurait dû être transmis dans un délai de 20 jours à la cour d'appel et arriver début avril. Sans quoi, la loi impose la libération automatique du prisonnier.
J'ai un deal pour toi. Ça te
dirait de sortir ? Donc voilà, ça c'était un extrait d'un reportage. Vraiment un tout petit extrait qui parlait d'une greffière qui a fait miroiter une sortie de peine à un tocard pour 40 000 euros. Donc moi je trouve que ça illustre vraiment bien le fait que la corruption en prison, la corruption dans les institutions de type enfermement, de type police et tout, ça a toujours été le cas en fait. Et juste maintenant on en parle un petit peu plus parce qu'il y a des médias lanceurs d'alerte genre Mediapart ou des militants anticarcéraux qui vont mettre ça en lumière. Mais avant ça existait, c'est juste que les administrations le couvraient, les supérieurs hiérarchiques étaient au courant, voire des fois même l'encourageaient. On a toujours eu des témoignages par rapport à ça de Togar. Je sais pas si t'es d'accord avec ça, Norman, toi
bien
qui as vécu la prison. Mais...
Bien sûr, parce que moi je me souviens de cette histoire au CPH de Meaux dans le 7-7 en Seine-et-Marne.
C'est quoi CPH ?
Centre pénitentiaire pour hommes.
Merci.
Et c'est vrai que c'est bien de préciser pour les gens qui sont non initiés en fait au système carcéral, mais je repense en fait à cette greffière, parce que là c'est l'exemple en fait me fait penser à cette histoire de cette greffière en fait qui accordait des permissions de sortie contre rémunération. En fait, tu pouvais sortir en perme sans passer par le JAP, sans passer par nulle part. En fait, t'allais en perme et tu allais juste payer en fait. Donc elle s'est fait remonter, hein, bien sûr, elle s'est fait lever. Mais voilà, ça illustre aussi, contre un petit billet, tout est possible en détention. Surtout avec certains agents.
Et du coup, moi, si je peux conclure ça, je dirais que le meilleur maton, c'est celui qui démissionne. Mmh. Et justement, par rapport à ça, j'ai trouvé une petite brochure sur infokiosque.net, qui est un site internet qui combine plein de brochures écrites par plein de personnes différentes, francophones. Qui s'appelle « Contre la grève des matons ». Et du coup, si vous voulez, on peut se lire un petit extrait. Mais en gros, ça parle du fait que les matons vont toujours dire « Oui, non, mais s'il y a de la violence, c'est des cas isolés et c'est à cause de nos conditions de travail. Et c'est exactement pareil à l'hôpital, en psychiatrie et tout. Hein. » Mmh. Mais ça, c'est les mauvais matons et nous, on est les bons matons. Et en vrai, on est un peu contre ça. Et du coup, cette brochure, elle va un peu mettre les points sur les « i ». Non, c'est peut-être pas ça la bonne expression, mais bref. elle va remettre les pendules, d'accord, c'est ça. Et elle va dire que, en fait, non, les matons ne sont pas légitimes à faire grève. Et si ça les révoque leurs conditions de travail, ils ont qu'à démissionner, quoi. Voilà.
Et puis même, c'est le système qui veut que la corruption, de manière quoi que vous fassiez, elle fera toujours partie du décor. C'est-à-dire que c'est le système carcéral qui invite à la corruption, que ça soit, les surveillants... Voilà, à un moment donné, ils ont besoin d'argent, je peux comprendre aussi. Mais viens pas te plaindre quand tu te fais prendre. Voilà, comme j'ai pour habitude de dire, tu peux tout faire sauf te faire prendre. Et voilà, quand tu te fais prendre, ne viens pas accuser des personnes détenues, parce que c'est juste dégueulasse. Et ne viens surtout pas te plaindre si tu prends quelques menaces au passage, parce que c'est juste dégueulasse d'accuser des innocents quand tu étais très très volontaire pour le faire. Donc voilà.
Moi, je vous propose qu'on se mette page 8.
Oui.
Il y a un chapitre qui s'appelle « Centre pénitentiaire pour femmes de Rennes ». Je ne sais pas si quelqu'un a envie de commencer. Je ne sais pas combien de temps on se donne, mais peut-être 5-10 minutes.
Mmh. Si tu veux, je commence et tu prends la suite.
Vas-y, ou okay. Si d'autres personnes veulent le faire, j'ai déjà beaucoup parlé en vrai. Je ne sais pas comment. Je peux grave prendre la suite après si besoin.
Le 15 janvier a commencé un mouvement de matons dans toutes les prisons de l'État français pour protester, soi-disant, contre le manque de mesures de sécurité dans les établissements pénitentiaires et dénoncer l'agression que quelques surveillants-surveillantes ont subie à la prison de Vendin-le-Vieil par un prisonnier. Les matons-matones se sentiraient ainsi en danger,
elle manquerait d'effectifs et d'instruments répressifs pour faire face aux prisonniers prisonnières qui les agressent. Elle ne se sentirait pas valorisée socialement. Il manquerait d'amour et de compréhension de la part de leurs semblables, lesquels ne comprendraient pas leur rôle social. Mais elle se ferait maltraiter aussi par l'État, lequel, en les sous-payant, n'apprécierait le grand service qu'elles rendent à la société en gardant les méchants méchantes à l'écart, hors de la vue des gens honorables. Les matons matones ne sont pas des ouvriers ouvrières, ils et elles sont des agents actifs dans la protection et la préservation d'un système qui protège les riches et enferme les précaires. L'amélioration des conditions de travail qu'elles réclament ne sont autre chose qu'un manifeste en faveur d'un modèle de société basé sur la sécurité. Mais pas la sécurité d'avoir une vie digne et épanouie, ni la sécurité de pouvoir arriver à la fin du mois avec suffisamment de ressources matérielles. Non plus la sécurité de ne pas manquer de logement, ni de nourriture, ni de chauffage. Ni la sécurité de ne pas se faire arrêter, contrôler, ni tabasser dans la rue à cause de la couleur de ta peau, de ton idéologie, de ta religion ou de ton orientation sexuelle. La sécurité qu'elles défendent est basée sur le contrôle, la haine et la peur. Elles demandent plus de caméras de vidéosurveillance, plus de fouilles, plus d'armes, plus d'effectifs, plus de barbelés, plus d'isolement, plus de discrimination, plus d'obéissance. En prison, nous vivons enfermés, ce qui est en soi une mesure inhumaine d'une grande violence. Mais nous vivons aussi sous la menace permanente. Au moindre incident ou montée de ton dans une discussion, les matons débarquent à plusieurs. On se fait vite entourer d'uniformés prêts à intervenir. Ils disposent de menottes, de casques, de boucliers, de la force brute, du nombre, de la menace. En cas de nécessité, il y a aussi les IRIS, plus entraînés et avec plus de moyens. Les IRIS qui sont le GIGN de la tôle, globalement.
Avec les gros fusils à pompe.
Un incident banal peut faire objet d'un CRI, compte rendu d'incident, lequel entraîne un passage en commission disciplinaire. Les sanctions dont elles disposent sont bien connues. Confinement, mitard, isolement, transfert disciplinaire, piqûres d'anxiolytiques, etc. La machinerie répressive dont ils disposent, donc, n'est pas négligeable. Cependant, toutes ces mesures se sont avérées complètement inefficaces puisque les matons matones continuent à se faire agresser. Alors la solution passerait par les endurcir, les renforcer. Peut-être avec des tasers, se sentirait-elle mieux. Et pourquoi pas un boulet attaché au pied, une chambre à gaz calmerait-elle les récalcitrantes. En réclamant plus de moyens, ils réclament plus de contraintes pour nous, les prisonniers et les prisonnières, ce qui entraîne plus de tensions, plus de rage, plus de violence.
Je fais une petite interlude, mais globalement c'est un peu l'argumentaire qui va de l'extrême droite jusqu'au Parti Socialiste, qui disent « oui, il faudrait plus d'armes pour la police, et c'est que comme ça qu'on va pouvoir faire calmer la violence ». Sauf que quand on regarde les études de sociologie, quand on regarde un peu plus largement et qu'on prend un peu de recul sur la situation, on se rend compte que plus on arme une société et plus on arme aussi la répression, plus il y aura de violence en fait, et genre ça a jamais rien résolu.
Ouais. Donc voilà. Et puis pour réagir à ce que tu dis là, encore un article de notre Darmanin, voilà, qui insiste assez lourdement sur sa police pénitentiaire qu'il veut mettre en place, armée, je précise. Je pense pas que M. Darmanin ait conscience du danger potentiel que représente une arme en détention. Voilà, parce que je sais pas ce qu'il peut faire. Voilà, je vous laisse imaginer un surveillant qui pète les plombs et qui tire sur tout le monde, ça s'est déjà vu à l'étranger, et j'ai pas envie de voir ça en France. Donc non à l'armement des surveillants et non à la police pénitentiaire.
Est-ce que vous voulez qu'on continue un peu de dire ça?
Ouais.
Quelqu'un voulait faire ou je sais pas.
Je vais bien.
Vas-y.
Les surveillants surveillantes de prison, conjointement avec les autres forces répressives, sont ceux et celles qui font le sale boulot des États. Sont celles qui font que la machine tourne. Elles sont complices des politiques gouvernementales qui génèrent davantage d'inégalités et donc poussent les pauvres et les exclus à la débrouille, à la lutte pour la survie, à la lutte pour le changement social. Elles sont agents actifs dans la défense du modèle patriarcal qui enferme les femmes qui se sont défendues des attaques machistes, celles qui s'écartent de leur rôle imposé de mère et d'épouse. Ils se plaignent de faire un boulot qui n'est pas valorisé socialement, mais comment veulent-ils qu'on valorise celui ou celle qui enferme des êtres humains dans des cages ? Les tortionnaires, eux non plus, ne sont pas bien vus. Par contre, tout le monde apprécie la boulangère du coin. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avec les blocages des prisons, les matons-matones ont fait une déclaration de guerre aux prisonniers-prisonnières. Elles se sont attaquées à toutes les choses qui nous touchent de près dans notre quotidien. Elles nous ont laissés sans parloir, punissant au passage nos proches qui se sont déplacés pour rester à la porte ou qui ont vu le temps de parloir réduit considérablement. En empêchant l'entrée des intervenants et intervenantes, elles nous ont laissés sans activité, sans formation ni travail. Si on peut appeler travail l'esclavage légal qui s'applique en prison. En empêchant l'entrée aux docteurs, psy et infirmiers et infirmières, sauf une docteure et une infirmière, elles nous ont laissés sans soins ni médicaments. En bloquant l'entrée des fournisseurs, elles nous ont laissés sans pain, sans cantine, sans produits frais, sans fruits et légumes. En retardant les mouvements, elles ont raccourci les horaires de promenade et de sport ou les ont carrément supprimés. Elles ne se sont pas attaquées à leur hiérarchie ni au fonctionnement de l'institution en ce qui concerne la question sécuritaire. Elles n'ont pas laissé les portes ouvertes, ni n'ont menacé de le faire. Tout le personnel pénitentiaire est bien entré. Ils continuent à nous enfermer dans les cellules, à faire des fouilles, à nous faire passer sous le portique, à faire des CRI. La machine fonctionne. C'est étonnant le zèle qu'elles apportent à leur tâche. Ils défendent le règlement et l'institution comme si c'était leur maison ou leur famille. Or, elles défendent quoi ou qui au juste? Un État qui les considère comme un pion de plus et qui n'est même pas en mesure de leur garantir une pension digne pour la retraite? Mais c'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux plus démunis, à celles qui ont les bras liés, à celles qui sont ici, retenues en otage, impuissantes de voir qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'ils bénéficient de totale impunité.
En effet, tous ceux qui s'érigent en défenseurs de la loi et de l'ordre, qui sont prêts à intervenir avec usage de la violence au moindre mouvement collectif de notre part, bloquent l'entrée sans que personne intervienne. Elles sont au-dessus de ça. C'est gratuit. Ici, c'est chez eux, nous ne sommes que des pièces à utiliser pour leur tour de force. Et c'est justement ce qu'ils cherchent. Nous pousser à bout, nous énerver, nous faire exploser de rage. Tout d'un coup, les nouvelles d'agressions de surveillantes multiplient dans les médias fidèles au régime. Mais voyez-vous? Voyez-vous comment c'est dangereux en prison? Quelles bêtes devons-nous garder? Elles aimeraient qu'on mobilise nous aussi. Qu'on mobilise nous aussi. Que ça pète ici, pour donner de l'ampleur à leur mouvement. Nous nous trouvons coincés au milieu. D'un côté, le besoin de répondre, de ne pas se laisser faire. De l'autre, le besoin d'agir intelligemment pour ne pas tomber dans leur manège. Ne pas agir comme ils le voudraient. Nous avons choisi de leur rappeler à chaque instant que nous sommes en colère, qu'on les méprise profondément, que ce qu'ils nous font nous dégoûte et qu'on n'oublie pas. Qu'après on se croisera tous les jours et que, à la fin, on récolte ce qu'on sème. Avec la rage au ventre. Marina. Du coup, ça, c'était une partie de la brochure contre la grève des matons. Je peux vous lire le petit résumé qu'au dos de cette brochure, ça fera un peu une conclusion de cette brochure. Les matons-matones ne sont pas des ouvrières. Ils et elles sont des agents actifs de la protection et la préservation d'un système qui protège les riches et enferme les précaires. Je crois qu'on a déjà vu ça, en fait. Bon, c'est pas grave, je le refais. L'amélioration des conditions de travail qu'elles réclament ne sont autre chose qu'un manifeste en faveur d'un modèle de société basé sur la sécurité. Mais pas la sécurité d'avoir une vie digne et épanouie. Ni la sécurité de pouvoir arriver à la fin du mois avec suffisamment de ressources matérielles. Non plus la sécurité de ne pas manquer de logement, ni de nourriture, ni de chauffage. Ni la sécurité de ne pas se faire arrêter, contrôler ni tabasser dans la rue à cause de ta couleur de peau, de ton idéologie, de ta religion, ou ton orientation sexuelle. La sécurité qu'elles défendent est basée sur le contrôle, la haine et la peur. Elles demandent plus de caméras de vidéosurveillance, plus de fouilles, plus d'armes, plus d'effectifs, plus de barbelés, plus d'isolement, plus de discrimination, plus d'obéissance. Voilà, à retrouver sur infokiosque.net. J'imagine qu'il y a des Rennais qui ont écrit ça, parce que ce qu'on vient de vous dire, c'est un témoignage du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes.
Big up au CPF.
Big up au CPF. voilà. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Il est 13h30, 13h12 plus 18 minutes. Et 13h12, rempressez les chiffres par des lettres, vous comprendrez tout de suite mieux. Moi, je voulais vous faire, pour enchaîner, un petit point sur la réquisition de la maison de quartier du Triangle. Et pour ça, peut-être Tim, tu peux préparer si tu veux l'audio. J'ai trouvé sur le compte Instagram de Utopia56 Rennes, du coup, qui est une association de soutien aux personnes sans logement, je crois, qui est très connue. D'ailleurs, tenez garde la thune, je crois qu'ils en ont besoin. Qui fait un peu, c'était un communiqué d'il y a peut-être 3-4 semaines, quand ils avaient réquisitionné le BAM. Le BAM qui est une maison de quartier, c'était une maison de quartier, c'était l'Antipode avant. Mais maintenant, ça a été repris par un groupement d'associations qui est vraiment très chouette. Il y a des cantines, il y a des ateliers pour apprendre le français. Bon, bref, il y a plein de trucs qui se passent là-bas. Allez-y, c'est ouvert toute la journée. Et du coup, pour faire un peu le topo, en gros, quand il y a la trêve hivernale qui est arrivée et qui commence vraiment à faire froid, à Rennes, il y a des exilés, des familles exilées qui ont pris le campement de Morpa. Pas le campement, pardon, je m'en mêle dans ce que je dis. Le parc de Morpa. Ils ont placé leurs tentes, sauf qu'à un moment donné, il y a les Condés qui sont arrivés tout casqués et tous les CRS pour les dégager alors qu'il faisait genre giga froid. Ils les ont foutus dans des bus, ils les ont envoyés à l'autre bout de la Bretagne. Et après, 2 jours plus tard, du coup, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, on va vous héberger. Et 2 jours plus tard, ils ont dit ok, mais bah, en fait, on vous vire de l'hébergement, on vous renvoie à Rennes, mais vous allez devoir payer. Du coup, ça, c'est un peu la conséquence directe de notre mairie socialiste à Rennes, qui du coup refuse depuis des mois de proposer des solutions, même voire des années, aux gens qui n'ont pas de logement, alors même qu'il y a des logements vides partout à Rennes, genre je crois que c'est un truc genre 5 ou 10%, c'est genre énorme. Il faudrait que je retrouve les chiffres. Et du coup, qui trimballe les gens d'hébergement d'urgence à des tentes en continu. Et là, actuellement, ils sont passés par des maisons de quartier, ils sont passés par une paroisse qui a bien voulu les accueillir pendant quelques jours. Mais à chaque fois, c'est genre pas du tout pérenne. Et depuis hier soir, ils se retrouvent, ou avant-hier soir, je sais plus, ils se retrouvent au Triangle, du coup, qui est une maison de quartier, qui, pareil, a accepté de les héberger quelques jours parce que les gens sont pas inhumains. Et du coup, si tu veux, Tim, on peut s'écouter leur communiqué qu'ils avaient fait il y a quelques semaines quand ils avaient squatté le BAM.
Ouais. Les institutions publiques et la mairie de Rennes poussent à la création d'un campement hivernal. Depuis l'évacuation de l'espace social commun Simone If, plusieurs personnes, notamment isolées, des mineurs non accompagnés, des femmes seules, des hommes seuls, sont déjà ressorties. Elles ont été rejointes par des nouvelles familles qui se retrouvent elles aussi à la rue. Depuis, on essaye de faire en sorte que ces personnes ne dorment pas à la rue. Donc on fait ce qu'on appelle des occupations amies, c'est-à-dire qu'on va dans des lieux où des associations nous autorisent à venir. Ces lieux appartiennent généralement à la mairie qui, depuis quelques jours, use d'intimidation auprès des associations présentes sur place pour que les personnes partent et ne restent pas dans ces lieux. Donc nous là, on se pose des vraies questions à l'approche des fêtes, en plein hiver, de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que les institutions font. Parce que à part faire des intimidations aux associations et aux structures aidantes, il n'y a rien qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains jours? On ne sait pas. Et qu'est-ce que cette politique va mener si ce n'est qu'en plein hiver à Rennes, il y aura un campement avec des enfants? Eh ben, on ne sait pas. Donc on appelle vraiment les institutions à se bouger et à apporter d'autres réponses parce que la situation là, elle devient dramatique. Et on espère vraiment que ça va bouger assez vite.
Ça, c'était le jingle. Bah, voilà, moi, je trouve.
En tout cas, gros force et gros soutien à toutes ces personnes en précarité absolue qui se retrouvent à la rue, qui sont à la rue, qui sont sans logement. Grosse force et grosse pensée à vous.
Voilà. Et oui, j'avais oublié de faire de vous dire dans mon topo. En gros, ils ont essayé, il y a 3 jours, je crois, d'ouvrir un squat. Juste derrière la préfecture, c'est un peu marrant. Mais ça n'a pas fonctionné parce que du coup ils se sont fait expulser moins de 24 heures après.
C'est pas la meilleure stratégie. Ouais.
Bah, c'était un peu trop proche du préfet, sans doute. Il n'a pas kiffé.
Ça dérangeait un peu trop.
Mais du coup, voilà, la situation en ce moment elle est dramatique d'un point de vue des squats dans toute la France où on voit à chaque fois qu'il y a un squat qui ouvre, il est fermé quasiment instantanément. Et ça, c'est directement lié aux législations qui ont été votées à l'Assemblée nationale par rapport aux législations Casbarian par exemple qui préconise mais qui permet à la justice, aux préfectures au Condé et à tout cet appareil législatif d'expulser très rapidement. Avant, il fallait qu'il y ait plein de règles à respecter, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait une voie de fait. Donc ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait par exemple un carreau qui était pété, une serrure qui était arrachée ou un truc comme ça, pour que l'huissier il puisse autoriser l'expulsion par exemple. Maintenant, et puis même il y avait un recours légal, c'est-à-dire qu'il fallait passer devant un juge, ça prenait en général 1 à 2 mois, il fallait qu'il y ait des référés, je sais pas quoi, bref, j'ai pas tous les détails, mais en gros c'était un peu plus compliqué pour l'État de virer des squats, qui je rappelle très souvent concernent des logements inoccupés et qui ne dégradent pas. Et maintenant, dès qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison, qui vont dans une maison qui n'est pas utilisée, ils sont expulsés. Souvent, ils finissent en procès, ils perdent de la thune avec ça. C'est hyper précaire. Et du coup, moi, en tout cas, je me positionne contre toute cette dynamique actuelle qu'il y a par rapport aux squats et aux réquisitions de bâtiments vides.
On n'entend pas, enfin, des fois, on entend parler de la trêve hivernale avec l'idée qu'il n'y a aucune expulsion possible pendant la trêve hivernale, etc. Et en vérité, il y a beaucoup d'exceptions ou de moyens légaux qui font que ça reste possible d'expulser des gens en plein hiver, quoi.
Ouais, ça
enfin, c'est un peu une légende que c'est impossible d'expulser des gens en hiver et tout.
Ah ouais, ça c'est vrai sur le papier, mais. La plupart du temps, ils t'envoient quand même les condés.
Il y a des petites exceptions en fait, qui sont mises au jour en fait, qui permettent en fait, à l'expulsion malgré la trêve hivernale. Donc voilà.
Bah là, par exemple, moi j'avais été dans un squat à Douarnenez qui s'appelle les Roches Blanches. En gros, ça fait 10 ou 15 ans que ça existe et c'est une ancienne colonie de vacances que, genre, avec vue sur mer, genre, le truc était incroyable. Pareil, qui était laissé à l'abandon parce qu'il y avait de l'amiante dedans. Donc il y avait des gens qui avaient squatté, il y avait un collectif de 40 ou 50 personnes, et en plus, ça correspondait pas du tout, genre, leur narratif il fonctionnait pas du tout, parce que la plupart des gens qui étaient là-dedans, ils travaillaient, ils faisaient fonctionner la vie de Douarnenez, même les institutions, genre la mission locale, et même les condés, renvoyaient les gens qui étaient en galère dans la vie là-bas, donc c'est-à-dire que si tu te pointes à la mission locale, t'es en mode, mes parents veulent pas m'aider, c'est trop la galère, j'ai plus de thunes, je dois vivre dehors. Les institutions renvoyaient les gens dans cet établissement, pas cet établissement, mais dans ce squat. Donc, du coup, globalement, il y avait une fonction de compléter ce que les institutions ne font pas. Et ironie du sort, il y a la mairie de droite qui a envoyé en justice ce squat et a proposé aux enchères la vente. Du coup, les squatteurs, ils sont mobilisés, ils ont recueilli, je crois, 300 000 euros pour essayer de racheter ces bâtiments. Et sauf que ça a été considéré par le tribunal de Quimper comme irrecevable parce que l'argent venait d'une cagnotte. Et du coup, la mairie a racheté pour moins cher que ce que proposaient les squatteurs le bâtiment pour le détruire et pour faire un gros projet immobilier pour des bourgeois. Voilà. C'était pour faire un petit point et pour envoyer toute notre force aux habitantes des Roches Blanches.
Ouais, parce que l'argent, en fait, il a une couleur voilà. C'est très étrange. C'est de l'argent, c'est de l'argent. C'est pas de l'argent volé, c'est pas de l'argent.
Ah bah non. Hein.
C'est de l'argent de dons.
Ah ouais, c'était des dons. Hein.
Bah ouais.
Ouais, c'était pas de l'argent sale. Hein. Ouais. Du coup, c'était pour faire un petit point. Du coup, n'hésitez pas à filer de la thune. Je pense que c'est Utopia 56 qui pourra en faire bon usage par rapport à ce sujet de la réquisition de la maison de quartier. Là. Et du coup, j'imagine que cette maison de quartier elle va être réquisitionnée que pendant, encore une fois, que pour 2-3 jours. Quoi. Et après, les gens ils vont repartir dehors. Ces familles. Voilà. Bon, pour rajouter un petit peu de bonne humeur dans cette émission, je vous propose qu'on se quise un post Instagram. Je change de sujet complètement, je suis désolé, ça va un peu dans tous les sens. Mais je voulais parler de la défense des patients hantes de psychiatrie et de ce que ces patients hantes ont à dire de leurs propres conditions. Et du coup, j'ai trouvé un texte sur Instagram qui... parce qu'en fait, moi, j'ai fait du stop il y a deux semaines. Et il y a une meuf qui a accepté que je monte dans sa voiture et on a commencé à parler de son taf. Elle est infirmière à Guillaume Régnier, donc c'est un centre psychiatrique, un hôpital psychiatrique à Rennes. Et globalement, on parlait un peu des courants antipsychiatriques et de pourquoi on n'était pas d'accord là-dessus. Et avec son argumentaire, c'était oui, bon, il y a de la violence des fois, mais c'est que certains soignants et c'est relatif au manque de moyens. C'est-à-dire il n'y a pas assez de thunes, du coup c'est normal que ce soit un peu la galère et que les patients soient maltraités. Et ce poste, il répond un peu à tout cet argumentaire et dit pourquoi, bah, en vrai, c'est un peu facile de dire ça. Et bon, bref, on peut se dire ça si vous voulez. Est-ce que quelqu'un a envie de lire ou je sais pas. Ouais. Ok, trop bien.
Vous ne défendez pas les patients en psychiatrie.
Oui, c'est... On t'entend, bof.
Bof, ok, d'accord, je recommence.
T'inquiète.
Vous ne défendez pas les patientes en psychiatrie. C'est votre solution, c'est plus de moyens pour la psychiatrie. Enfermement, contention physique, isolement, injection médicamenteuse, sonde gastrique, contention chimique, médicaments imposés, privation de liberté fondamentale. Ça, c'est des pratiques légalement autorisées en psychiatrie, dans les hospitalisations sans consentement. Donc tout ça, c'est des pratiques coercitives autorisées quand vous considérez que le système psychiatrique fonctionne correctement. Et on entend des personnes dire « C'est terrible, il y a des gens qui subissent trop de ces pratiques, parce que la psychiatrie publique manque de moyens. » Déjà, est-ce que vous vous rendez compte de la violence que c'est de dire ça ? Quand on les a vécues, cette tech-là, elle sous-entend quelque chose de très clair. Oui, c'est normal d'utiliser ces pratiques dans certains cas. Autrement dit, c'est normal pour vos cas. Le problème, selon vous, celui que vous souhaitez politiser, est que la psychiatrie aurait recours à des pratiques coercitives, à cette maltraitance, en dehors d'un cadre proportionné parce qu'elle serait dans l'impasse. Pas assez de soignantes, pas assez de lits, pas assez de temps, pas assez de tout. Donc, la psychiatrie serait contrainte, malgré elle, de contentionner, de médicamenter, de force, d'enfermer, de priver de liberté, etc. Mais plutôt que de questionner la coercition psychiatrique, vous vous souciez des revendications de celles qui l'exercent. Vous marchez main dans la main avec les professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale qui réclament plus de moyens. Plus de moyens pour exercer leur pouvoir sur les psychiatrisés. Plus de moyens pour une institution que vous ne questionnez pas ou que vous ne remettez pas en cause. Ni ses dynamiques oppressives, ni son fonctionnement, ni ses fonctions sociales. Jamais vous ne questionnez que pour certaines personnes, vous tolérez que la psychiatrie maltraite. Jamais vous ne questionnez la propre déshumanisation que vous opérez quand votre combat est celui de nos bourreaux. Jamais vous ne questionnez avoir intégré la violence de la psychiatrie, la déshumanisation des anormaux. La seule critique que vous acceptez de la psychiatrie, c'est l'autocritique malhonnête de ses propres professionnels. Toutes les bonnes raisons qu'elles fournissent pour se déresponsabiliser de leur propre violence. C'est seulement des mauvais professionnels qui font ça. On n'a pas le choix. C'est pour leur bien, leur sécurité, leur survie. On fait face à des maladies particulières qui ne nous laissent pas le choix. On agit avec bienveillance. C'est avant tout elles qu'il faudrait écouter. Leurs besoins, leurs revendications, leur agenda politique. La parole des psychiatrisés est loin d'être libérée. Partout, pour parler de nous, on tend la parole à des professionnels de nous-mêmes. Il faut un diplôme pour parler de nous, il faut une connaissance particulière pour parler de nous. Un savoir particulier, un discours spécifique. Enfin bref, une autorité sur nous. La parole est loin d'être libérée. Partout autour de nous, nous vivons les mêmes injonctions médicalisantes pour gérer nos vies, nos souffrances, nos subjectivités. Ces injonctions à vivre sous ce contrôle psychiatrisant permanent. Ces injonctions tellement puissantes qu'elles n'émanent pas seules des seuls professionnels de la psychiatrie et de la santé mentale, mais également de tous ses relais. Une société entièrement saniste, une société entière qui hiérarchise les individus autour d'une norme comportementale. Jusqu'à nos proches, nos amis, nos familles, jusqu'à nous-mêmes.
Tu veux que je prenne la suite ? Ou est-ce qu'on fait une interlude pour parler déjà de ce qui a été dit, ou...
Vas-y, bon, toi.
Je continue et vous m'arrêtez si vous avez des trucs à dire.
Très bien.
Après, quand on est psychiatrisé, imprégné par l'institution psychiatrique, il est quasiment impossible de conscientiser la domination qui s'exerce sur nous. La violence existera toujours en psychiatrie, quels que soient les moyens à sa disposition. On le voit dans les institutions psy privées dotées de plus de moyens. Spoiler, la violence s'exerce toujours avec plus de moyens. Pire, l'institution devient plus insidieuse, sa violence devient moins visible. Vous battre pour les moyens de la psychiatrie, ce n'est pas nous défendre, c'est défendre la classe qui exerce sur nous sa domination. Cette équipe médicale, ces soignants-soignantes, ce ne sont pas nos alliés. Certains, certaines diront, ces pratiques coercitives sont strictement encadrées dans les hospitalisations sans consentement, mais c'est le manque de moyens qui fait qu'elles sont appliquées n'importe comment. Elles doivent être proportionnées, limitées, pour prévenir un danger immédiat ou imminent, utilisé en dernier recours. Selon vous, un système qui peut légitimement déterminer et outrepasser l'autodétermination et le consentement de ses patients-patientes respectera-t-il le caractère proportionné de cette atteinte ? Tant que vous marchez main dans la main avec ces institutions pour qu'elles aient la possibilité d'exercer dans les conditions qu'elles réclament, vous ne vous protégerez pas. Vous perpétuez un système qui nous hiérarchise et nous contraint. Abolition des soins sans consentement, abolition de la contrainte, droit à l'autonomie corporelle, droit à l'autodétermination. Et donc pour tout ce que cela soit effectif, une solution, abolition de la psychiatrie. Nous ne réclamons pas l'abolition de la psychiatrie dans une intention libérale qui nous rendrait seuls et responsables de notre souffrance. En tant qu'antipsy, on nous accuse de ne pas penser le soin, de ne pas prendre en compte son importance. Nous avons pourtant plus que conscience, pour être directement concernés par la souffrance, de l'importance du soin pour notre survie et celle de nos camarades. Le soin est au cœur de nos luttes antipsy. Il est un enjeu politique vital. Le soin n'a pas à être réservé à un monopole de sachant-sachante, psychologue ou psychiatre. Il n'a pas à être institutionnalisé par un appareil psychiatrique hiérarchique, répressif et normatif. Le soin ne doit pas être marchandisé. C'est la voie qu'a prise la psychologie libérale. Ces psychologues ne conçoivent pas leur propre position de classe. Le soin, l'écoute, le soutien émotionnel et psychique ne doivent pas être pensés sous un modèle biomédical qui transforme l'anormalité sociale en pathologie à corriger, l'anormalité sociale en pathologie à corriger et qui impose un soin médical correctif de la déviance. Nous défendons le soin comme une pratique collective et politique, un soin respectueux de nos subjectivités, de notre capacité à nous définir et à définir ce qui nous fait du bien et nous soigne. Nous nous opposons à un soin administré dans le cadre d'une relation hiérarchique patient-soigné. Nous luttons pour nous réapproprier ce qui nous est volé par ces institutions de soins. Un soin collectif et solidaire, sans hiérarchie, sans coercition, sans médicalisation forcée. Vouloir l'abolition de la psychiatrie, ce n'est pas vouloir l'abolition du soin. Nous voulons le reprendre entre nos mains. Le soin psychiatrique et psychologique est aujourd'hui un instrument de pouvoir normatif. Un pouvoir insidieux, car la bonne santé mentale est aujourd'hui une injonction qui pèse sur nous tous, une injonction normalisée et un devoir moral. C'est tout le pouvoir de cette culture psychologique que nous dénonçons. Nous voulons des espaces de soins ancrés dans nos vécus, nos solidarités et nos résistances.
Et la dernière page, c'est un...
un PS où la personne parle du fait qu'elle va reparler dans un autre poste des sondes gastriques et pourquoi pour elle c'est un viol. C'est-à-dire qu'on t'insère une sonde pour te nourrir parce que tu serais anorexique et tout. Et cette personne a vécu ça et raconte que bah, en fait, ça lui a pas du tout fait du bien et qu'elle a vécu comme une violence extrême et que voilà que c'est un viol pour elle et qu'elle veut jamais que ça se reproduise et que c'est son choix de manger ou pas.
De manière, tout ce qui est introduction de corps étrangers, que ça soit par la bouche ou par n'importe quel orifice, et automatiquement, c'est un viol. Clairement, quand on te fait pénétrer quelque chose dans ta bouche, dans ton nez, dans tes oreilles, peu importe la manière, quand on introduit quelque chose dans ton corps et que t'es pas d'accord avec ça, c'est du viol, c'est un viol, tout simplement.
Et le soin sans consentement, c'est pas du soin. Moi, je trouve que c'est toujours utile de reparler de ça parce que ça a jamais marché. Obliger quelqu'un à soigner, bah, souvent, ça a fait plus de dégâts négatifs que positifs. Et moi, je trouvais ça intéressant, justement, de mettre en lien ces mouvements antipsychiatriques avec l'anticarcéralisme. C'est-à-dire, selon mon analyse, c'est ce que j'ai dit en début d'émission. La prison, elle enferme les personnes racisées, les personnes précaires, et la psychiatrie, elle a toujours eu pour rôle d'informer les femmes, les queers et les gens qui sont pas aptes à travailler, ou alors justement de les remettre au travail très rapidement, mais elle a jamais eu pour but de soigner les gens, ou en tout cas, même si ça peut fonctionner sur certaines personnes, ça a toujours été une image de façade, un peu une excuse pour mettre à la marge des gens et pour les enfermer.
Oui, et puis même c'est la facilité. Il y a des solutions en fait qui existent, mais par manque de temps ou d'investissement, voilà, on choisit la facilité médicamenteuse ou la facilité à forcer les gens, or qu'il y a des techniques avec l'accompagnement et l'écoute et voilà, ça marche beaucoup mieux, mais voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête et on médicamente et on force les gens malgré leur désaccord.
Et puis il y a vraiment quelque chose, je pense aussi de l'ordre de la soumission volontaire des patients en fait, à partir du moment où on leur prescrit. Et je sais qu'il y a toute, en fait, souvent la possibilité pour le patient de refuser l'administration, mais ils le savent pas. Et vraiment il y a ce jeu autour de ça où ils vont prendre des médicaments sans savoir qu'ils ont le droit de refuser. Et puis aussi ils sont juste en situation de grande vulnérabilité. En général, quand une personne est enfermée contre son gré, et les patients, les soignants ont un pouvoir vraiment extrême. Puis il y a tout un secret où les patients vont pas en parler, vont avoir beaucoup de honte, tout ça. Donc c'est vraiment un système de d'oppression, quoi.
Et puis, il y a un manque d'information aussi cruel. En détention, on vous dit, tiens, prends ça, ça va te faire du bien, mais on ne t'informe pas sur les addictions et voilà, tout ce qui s'ensuit derrière. Voilà, on pense, quand vous êtes détenu ou même patient, parce que c'est aussi le cas en CHRS ou voilà, en centre hospitalier spécialisé, voilà, on te dit, ça va te faire du bien. Et donc toi, tu as confiance en fait au début, quand tu connais pas le système, tu fais confiance parce que tu te dis que c'est des professionnels et qu'ils savent de quoi ils parlent. Et quand tu t'aperçois des choses, il est déjà trop tard. Donc voilà, force à tous ceux qui sont en psychiatrie, les tôles, et puis voilà, même les CRA et puis tous les lieux d'enfermement.
Et petit rappel pour l'anecdote, ça fait que depuis les années 90, je crois que c'est 1990, qu'un mari ne peut plus enfermer sa femme en psychiatrie pour hystérie. Voilà, ça donne un peu la couleur.
Ah, elle est hystérique.
C'est, voilà, c'est un peu le truc qui est bien connu, mais pour moi qui démontre bien que ça avait pour rôle d'enfermer pas n'importe qui.
Tu peux plus, parce que moi j'ai déjà vu ça assez régulièrement là, ces dernières années, où clairement, quand le mari considérait que voilà, il n'y arrivait plus avec sa meuf. Il appelait le truc et puis elle était embarquée. Voilà, on cherche même pas à chercher à comprendre pourquoi ni le truc. On embarque et puis après on cause. Donc c'est
tu
un
peux
peu pareil.
Également, mais à mon avis ça doit continuer.
Pour vulgariser, c'est un peu ça quoi.
Moi j'ai vu un film il y a pas longtemps, il y a deux semaines, un film qui s'appelle Mademoiselle qui est tourné en Corée du Sud c'est un film de lesbienne où on voit justement cet exemple qu'un mari, une meuf qui aime pas son mari et du coup son mari va enfermer sa femme en psychiatrie. Et bon, bref, allez voir ce film, il est chouette, mais il est très violent.
Ouais. C'est quoi le film?
Mademoiselle.
D'accord. Ok.
Il nous reste 5 minutes, je sais pas si on aura le temps. Mais justement, pour faire ce lien entre abolition carcérale et abolition psychiatrique, je peux vous conseiller une brochure qui s'appelle L'abolition carcérale doit inclure la psychiatrie, et qui est aussi disponible sur InfoKiosque. On va tout chercher là-dessus. est-ce que, ouais, 4 minutes. Bon, je peux vous lire, je sais pas si quelqu'un a envie de le faire à ma place, je sais pas. Non. Bon, je peux vous lire un début du résumé de cette brochure qui est parue sur le site Zinzinzine, qui n'existe plus mais qui est juste disponible en archive. Du coup, c'est en anglais, le mouvement pour l'abolition fait généralement référence aux luttes anticarcérales. Ce mouvement recouvre des luttes contre la prison, le système pénal, les forces de l'ordre et l'industrie qui tire profit de ce système. Ces luttes visent ainsi à mettre en pratique l'enfermement, de punition, de coercition, de contrôle social et de ségrégation. Il s'agit également d'expérimenter des façons non oppressives de répondre aux besoins de sécurité, de résolution et de conflits et de gestion de crise. Cependant, l'abolition est aussi un objectif central dans l'antipsychiatrie et l'antivalidisme. Puisque la fin de l'institutionnalisation des personnes handi et psychiatrisées est une condition essentielle à notre émancipation. L'institution est alors définie comme suit. Une institution est tout établissement ou service où les gens n'ont pas le contrôle de leur vie. Un établissement ou un service pouvant être une institution privée ou publique, une maison de retraite, un foyer d'hébergement, un foyer de l'enfance, un hôpital de jour ou un centre d'aide par le travail. Les recoupements entre luttes antipsychiatriques et antivalidistes et les luttes anticarcérales sont multiples. La psychiatrie a un fonctionnement carcéral, tandis qu'en prison et en centre de rétention, l'usage répressif des médicaments psychiatriques est banalisé. En outre, non seulement la police et les prisons sont en soi une source de traumatisme et de handicap, mais on retrouve aussi en prison un nombre considérable de gens qui sont là parce que leurs difficultés psychologiques ont été criminalisées. Ce phénomène touchant disproportionnellement des personnes non blanches et marginalisées. Plus généralement, les personnes handicapées sont le groupe social le plus touché par l'enfermement institutionnel et la ségrégation sociale. Prisonniers R, psychiatrisés et handis sont déshumanisés et maltraités comme des indésirables et des nuisances. Que ce soit en prison, en psychiatrie ou en institut médico-social, à chaque fois les systèmes prétendant exister pour régler les problèmes de la population sont en fait construits pour nous maintenir sous contrôle et protéger les intérêts de l'État et de la bourgeoisie. Aucun de ces systèmes n'est véritablement fait pour le bien de tout le monde. Et tout et tous créent bien plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Les prochaines publications auront ainsi pour thème les liens profonds entre les diverses luttes pour l'abolition des systèmes fondamentalement néfastes, des luttes qui permettent aussi d'expérimenter combien on peut et on doit s'organiser autrement pour faire beaucoup mieux que ça. Ça, c'est signé Zinzinzine et c'est retrouvé sur InfoKiosque. Ça s'appelle « L'abolition carcérale doit inclure la psychiatrie ». Je vois qu'il nous reste une minute. Je suis désolé,
Moins d'une minute.
J'espère que personne ne voulait prendre la parole.
Ouais. Ça aurait été un plaisir de continuer à discuter, mais on doit rendre l'antenne malheureusement pour pas trop dépasser sur les autres émissions.
De ouf.
En tout cas, je souhaitais aussi faire un big up à Chacha, Kamikaze, Najette, Yannick Deslandes, mon frérot, chez qui j'ai passé une soirée formidable hier. Big up à toi, big up à Steph, big up à Sophie aussi, et Gaëtan qu'on n'oublie pas. Bref, à tous ceux qui sont engagés contre le combat anticarcéral.
Gros bisous tout le monde,
gros bisous
à toutes les personnes enfermées.
À dimanche prochain. Et on se retrouve bientôt.
Et fuck la Heps,
comme tu dis.